Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Eh ben c'est parti. Je suis vraiment ravi d'être là. Salut Mélina, comment ça va?
Ça va très très bien, ça va très très bien cette rentrée qui est de toute façon sportive comme toutes les rentrées, mais pour moi un peu plus évidemment en tant que footballeuse.
Mais j'imagine. Effectivement aujourd'hui on va parler football, on va parler engagement, on va parler un peu journalisme aussi, égalité homme-femme, on va aborder plein de sujets géniaux, si je commence à faire des petites fautes de français ça va pas aller. Mais avant tout ça, moi j'ai besoin de comprendre ton parcours, j'ai besoin de comprendre comment est-ce que tu en es arrivé là justement aujourd'hui à créer des reportages autour du foot féminin, à t'engager de plus en plus avec des assos. Mais la question que je pose à toutes mes invitées et tous mes invités, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Alors le premier souvenir de sport, c'est un souvenir de sport de rue, de football évidemment, c'est le fait que j'étais dans mon village la seule fille de ma génération, avec une génération quand même qui était concentrée autour de garçons. Donc on jouait au foot dans la rue devant l'épicerie de mon père qui était l'épicier du village face à la pâtisserie. Donc tu vois, cerné par l'alimentaire, et on était donc sur la petite route passante, la grande rue qu'on appelle, et on s'envoyait le ballon. Évidemment, il fallait pas qu'il touche le sol, donc zéro rebond. Parfois une touche de balle, mais bon, on s'autorisait même 2-3 touches. Mais en tout cas, voilà, jouer dans cette rue sur un espace très restreint, parce que c'était une rue étroite. Et quand te passaient des voitures, on faisait passer le ballon par-dessus les voitures. Et on avait des vies, et on perdait des vies si on faisait tomber le ballon par terre. Et donc c'est un souvenir qui est heureux, parce que c'était le jeu qui s'improvisait à chaque fois qu'on avait un moment où on faisait rien dans notre hyperactivité collective. Et donc c'est ce qui m'a appris la technique du football, parce que d'une part parce que j'étais entourée de garçons qui intrinsèquement sont traversés par le football depuis qu'ils naissent puisque c'est l'histoire qui fait ça, mais ça m'a appris par mimétisme et dans la joie aussi, parce que j'étais très attirée par cette espèce de truc bondissant là qu'il fallait envoyer des gros shoots. Et il s'avère que ça, c'est ma technique s'est affinée, et ce jeu-là est un des souvenirs de sport récurrents de l'enfance, mais un des beaux souvenirs.
Ah, mais je vous imagine bien à jouer et justement essayer de faire passer la balle au-dessus des voitures qui passent et il va y avoir des catastrophes. Et...
Évidemment. Bah, l'épicerie de mon père a été touchée par quelques éclats de verre.
je veux bien le croire. Et quand est-ce que t'as commencé à jouer avec des filles?
Tard, très tard, j'avais 18 ans, c'est quand je suis allée faire mes études STAPS, donc fac de sport à Marseille.
Okay.
Et c'est qu'à ce moment-là où j'ai intégré vraiment une équipe 100% féminine, parce qu'en venant de la ruralité, donc moi j'étais dans les villages dans les Alpes de Haute-Provence, Saint-André-les-Alpes. C'était mon lot quotidien de foot, c'était de jouer avec des garçons, mais que ce soit dans la rue mais aussi en club, enfin voilà, j'étais de la résistance. J'étais la seule figure féminine du club. Et
t'avais
vrai.
Le droit de jouer, de faire les compétitions,
oui,
les entraînements
Oui, jusqu'à 13 ans. Enfin, le règlement dit qu'à 13-14 ans, à la puberté, là, on n'a plus le droit de jouer. Donc, ça a été un crève-cœur parce que finalement, j'ai pas pu jouer au foot institutionnel de mes 14 à mes 18 ans.
Même t'entraîner. L'entraîneur voulait pas.
Ouais, j'ai pas trop forcé pour tout te dire parce que déjà c'était complexe d'exister. Même quand j'ai joué en amont, donc de mes 8 à mes 13 ans, dans les équipes de mecs, je jouais peu quoi. J'étais souvent remplaçante. Ouais. Donc c'était heureusement que j'avais la rue, que j'avais un cousin duquel j'étais très proche, qui et la cour de récré aussi, qui ça me faisait trois endroits comme ça de foot, mais en réalité le club en tant que jeune fille, je l'ai très très mal vécu.
Ouais.
Le club, quand je dis ça, la licence FFF quoi, en fait.
Ouais, bien sûr, j'imagine. Et c'est une des origines peut-être de ton engagement aujourd'hui, d'avoir justement de sentir, tu vois, l'exclusion du groupe. Enfin, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment et qui est évoqué notamment dans Sapiens. Je sais pas si tu l'as lu. C'est un bouquin que je recommande à tout le monde parce qu'il explique que quand on était des sapiens, si on vivait seul, on mourait. Du coup, être exclu de la tribu, c'était synonyme de mort, de petite mort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'être humain se soucie énormément du regard des autres et a vraiment peur du rejet. Mmh. Et que ça crée autant de traumatismes psychologiques de sentir rejeté par des amis, par un groupe, par des parents, enfin peu importe. Mmh. Tu vois, mais ce sentiment-là est très très ancré presque dans nos jeunes, quoi.
Alors, pour revenir au début de la question, oui, je pense que le fait de trouver une zone d'expression, ouais, et d'être en sécurité, en confiance dans cette zone d'expression, c'était important. Donc moi, ma zone d'expression, évidemment, de fait, par l'amour du football, c'était le rectangle vert. En ouais. L'occurrence, je me suis heurtée à des réticences liées au patriarcat, à la domination masculine, au fait que il y a du rejet de la part de l'entraîneur qui est un homme qui ne peut pas mettre une jeune fille sur le terrain parce qu'il estime que son équipe va être amoindrie, du rejet de la part des parents de ses coéquipiers, mais aussi des parents des adversaires qui disent quand c'est les coéquipiers, aujourd'hui, si elle est alignée, ça va jouer moins bien, ou alors les adversaires, ça va, il y a une fille dans leur équipe, vous allez largement dominer. Enfin, toutes ces choses-là, on s'y heurte. Et encore que j'avais un niveau de football qui me permettait d'exister. Ça allait au-delà, c'est-à-dire que on ne regardait même pas mon niveau, on regardait mon genre, et à partir de là, on me mettait sur la touche. Et donc, de trouver d'avoir la place, de prendre cette place et surtout d'être visible à l'endroit de cette place pour que ça fasse ça serve d'exemple, un rôle modèle, on peut être une source d'inspiration sans jouer en équipe de France. Bien mais sûr. Juste en étant là parce qu'on ne peut pas être ce qu'on ne voit pas. Et donc il est impossible de finalement pour une jeune fille de penser qu'elle peut devenir footballeuse si on n'en voit pas. Ça c'est très récent encore. Donc moi je pense que l'engagement il vient de là, et puis aussi j'ai un rapport au monde qui est très qui est dans le collectif, qui est lié à la rencontre, lié à l'autre, au besoin de je me nourris de des rencontres et du lien.
OK. Et je comprends dans ce que tu dis, tu vois, qu'il y a une passion qui est presque, enfin, refoulée, interdite. Est-ce que tu te permets quand même de rêver de d'en faire une carrière? Est-ce que tu as des rôles modèles? Est-ce que tu te dis tiens, mais je pourrais un jour quand même jouer au foot?
Ah bah à fond. Ouais. Entre mes 14 et mes 18 ans, je me dis qu'il va se passer 4 ans et que à l'issue de ces 4 ans, je vais être à la fac, je vais être dans une grande ville, je vais être à Marseille, et que là, évidemment, qu'il faut que j'intègre la meilleure équipe de
Marseille. C'est ton objectif,
à Marseille.
Du coup. Ouais.
Oui, bien sûr. Et puis je me souviens l'été avant de rentrer à la fac, je m'entraînais, j'allais courir tous les jours, j'étais comme une dingue, quoi, jongler, me faire des gammes contre le mur, type, tu vois, les pommes que tu fais gamine, un coup en l'air, un coup en une touche, un coup avec un rebond, sans rebond, enfin bon. Mais oui, j'avais, c'était une période. Là, on parle des années 2000 ou début 2000, où finalement tout était, enfin, à partir du moment où une joueuse avait un petit niveau, c'était accessible. On pouvait voir grand, on pouvait viser la sélection, quoi, nationale. Okay. Donc, il n'y avait pas encore énormément de concurrence, parce que forcément, les sections féminines n'existaient pas. Donc, soit tu avais appris à jouer dans la rue, dans le quartier, ouais, dans la cour de récré, et tu pouvais exister si tu te forgeais un petit physique. Donc oui, j'y croyais. Maintenant, je pense qu'avec le recul aujourd'hui, j'étais pas assez compète. J'avais moi, j'aime le beau jeu, c'est pas du tout prétentieux ce que je vais dire, mais je suis un peu une esthète du jeu. J'aime aussi ce qui fait le beau geste, le beau mouvement, la passe dans le bon timing en rupture. Mais par contre, de là à aller au bout de ça jusqu'à 90 minutes pour dire j'ai la win, et non, je pense pas avoir être assez compète, dans cette espèce d'euphorie de la gagne, quoi. Je l'ai pas assez. Je suis pas une bonne perdante, hein, je dis pas ça. Mais je suis pas une grosse gagnante, on va dire.
OK. Mais je sais pas si c'est, tu vois, dans un sport collectif, si c'est si nécessaire que ça, d'avoir absolument cette envie de la gagne. Généralement, ça vient de 2-3 personnalités du groupe qui le transmettent aux autres, je trouve. Après, quand ça se réunit, ça fait vraiment des équipes extraordinaires. Ça me fait penser à Cléopâtre Darleux et à Jérôme Fernandez, que j'ai pu rencontrer dans le hand, qui m'ont dit, ouais, il y avait vraiment ce truc de, c'est un virus, quoi. Il y avait un qui avait une envie de débordante, et puis tous les autres sont mis à l'avoir, et ça se transmet, tu vois. Mais c'est pas toujours quelque chose que t'as naturellement.
Ah non, tu te fais attraper, oui, c'est sûr. Mais quand même, enfin, pour faire carrière, enfin, il y a déjà l'ambition, enfin, la détermination, mais enfin, le collectif, il suffit pas. Si tu peux briller, le collectif, il peut te porter sur une saison, ouais. mais de là à te propulser au meilleur niveau, tu vois, pour aller jouer jouer le top niveau, bah, il faut avoir un mental, il faut, ouais, il y a quelque chose. C'est vraiment de l'ordre de détester perdre, d'avoir presque et moi, j'ai pas ça. Je m'abreuve encore une fois de l'esprit du groupe, de ce truc, de se challenger et d'être solidaire comme ça sur le terrain, mais pas au point de me transcender. C'est pas transcendantal, quoi, pour moi. J'arrive pas à toucher cet endroit.
Okay.
Même si j'ai pu le toucher, hein, il y a des moments où tu voles, quoi, sur un terrain, mais parce que tout t'es au rendez-vous, t'es dans le bon mood, les coéquipières te mettent comme ça un petit peu au centre, et puis sont enveloppantes, et puis ça, et tout marche.
Ouais.
C'est l'histoire du premier ballon, la première touche.
Et du coup, qu'est-ce que tu ressens quand tu commences à jouer avec d'autres femmes sur un terrain? que tu peux raconter un petit peu ton parcours à la fois émotionnel et footballistique, tu vois, j'imagine que ça doit être connecté.
Ben déjà, je fais un test parce que je rentre pas dans l'équipe comme ça quoi. Il y avait quand même une équipe, le Celtic Marseille, qui venait de monter en National A. Donc elles étaient promues au plus haut niveau, ce qui est la D1 féminine aujourd'hui.
OK.
Et donc l'entraînement doit reprendre en août et là match amical, match test. Donc je suis conviée à venir à Breil-sur-Roya là derrière le centre d'entraînement des Monégasques et on fait un match contre une équipe italienne, il me semble que c'était je regardais pas l'adversaire, franchement j'étais tellement dans un truc, j'étais trop en stress et il fallait ça faisait 4 ans que je ruminais dans mon village pour enfin avoir une équipe où m'exprimer, donc il fallait que ça marche, tu vois, donc j'étais un peu sous pression. Et puis l'entraîneur me met attaquante, ça se passe super bien, il me dit OK bingo, viens, on commence la saison, la prépa dans une semaine, rendez-vous à Marseille. Donc je passe tout le mois d'août, mon père m'amène parce que j'avais pas encore le permis, 3 fois par semaine, des fois 4, en mode aller-retour tout le mois d'août parce que j'habitais pas encore à Marseille, j'étais pas encore rentrée à la fac. Donc en mode 32 heures de voiture semaine
parce que c'est un bel acte, tu vois, on n'a pas trop mentionné tes parents mais je trouve que c'est un acte fort.
Ah oui. Ah bah alors pour le coup, ça n'a jamais été une question qu'ils aient une fille qui joue au foot ou pas. Ils me voyaient heureuse dans ce que je faisais, mais il y avait aucune question de est-ce que c'est un sport fait pour ma fille ou est-ce qu'on on l'orienterait pas vers un truc qui soit plus féminin, tu vois. Non, jamais. C'est ma chance et ma liberté, quoi. Elle a commencé par le fait que mes parents n'émettent aucun jugement sur ma façon d'aller chercher du plaisir dans le jeu, quoi.
Ouais, bien sûr. Puis au-delà de ça, le coup de main de faire 32 heures de voiture.
Ah oui, et puis mon père était dirigeant, même quand j'ai joué avec les garçons, il était dirigeant, il m'accompagnait. C'est un département rural, donc les routes, elles sont sinueuses, c'est dans les Alpes. Il m'accompagnait pendant 2 saisons, il m'a accompagné tous les week-ends pour jouer au foot. Ouais.
Trop chouette. Il faut féliciter les parents. Tu sais, j'entends souvent des histoires d'athlètes et tu vois que des fois, ça peut jouer à rien, tu vois. Effectivement un papa qui peut pas ou une maman qui n'aime pas ou je sais pas, tu vois, il y a toujours un petit
bien
truc
sûr,
mais ce petit
sûr.
Coup de pouce du destin, c'est chouette. Donc il y a ce mois où tu fais cette sélection,
et
ça se passe,
ça se passe, mais c'est quand même compliqué, c'est-à-dire que on est sur une équipe qui toutes les joueuses se connaissent, je suis la seule nouvelle. Elles sont montées ensemble, donc elles viennent de passer une saison main dans la main, ultra solidaire, et puis elles se connaissent par cœur, quoi. Donc y a un 11 type déjà qui est le 11 qui a permis de monter, donc c'est très dur de prendre la place. Là encore une fois, on est sûr, et puis on est à une époque où finalement la pratique féminine n'est pas encore très développé, début des années 2000, et surtout les filles elles sont pas habituées en fait à la concurrence, et du coup ni à l'émulation, mais pas à la concurrence. Enfin, moi elle me voit comme mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, elle sort d'où,
la petite fille du village,
qu'est-ce qu'elle vient faire, enfin on n'a pas besoin d'elle, on est monté sans elle, et en gros on a toujours nos forces vives, on va aller, voilà. Donc il y avait quelque chose comme ça d'un peu sectaire, quoi, qui était c'était un groupe soudé mais qui était un peu hermétique à l'autre. C'était tellement dur d'exister en tant que footballeuse, déjà je pense que elles, pour être là, elles avaient fait des pieds et des mains pour qu'il y ait une section féminine qui se crée à Marseille, parce que on n'était pas à l'OM, hein, on était au Celtic Marseille, c'était un petit club familial associé à un club de cyclisme, pour dire Celtic Beaumont, donc pour le cheminement. Donc je pense que celles qui étaient là aujourd'hui et qui avaient vécu la victoire, la montée, qui côtoyaient enfin le haut niveau, niveau. Bon, bah, elles avaient envie d'en être de l'aventure, quoi, de la suite. Donc, c'était, elles n'ont pas fait la place. Moi, ça a été très difficile parce que j'arrive, je suis le seul élément nouveau. Puis, j'arrive d'un village. J'ai jamais joué à 11 parce que finalement, en arrêtant à 13 ans, on jouait à 7, à 8 ou à 9 en pupille minime. Et donc, j'ai un déficit de physique, de vice. De trucs, c'est un exemple bête mais qui est significatif, c'est-à-dire envoyer le ballon dans les pieds de la joueuse pour aller chercher la touche ou le corner quand t'es un peu acculé dans ton camp. Bon ben ça voilà, je l'ai appris à 18 ans alors que je joue au foot depuis que j'ai 6 ans. Donc j'ai pas les codes du foot institutionnel, j'ai vraiment pas les codes. La façon de me positionner sur le terrain, je sais distribuer le jeu, j'ai un peu ça d'instinct, j'ai la technique, mais après j'ai pas d'automatisme. Donc je joue premier match, ça c'est une anecdote qui quand même restera marquante pour moi parce que il y a mon père dans les tribunes, premier match à Marseille dans un stade, bon il y avait allez on va dire 100 personnes, hein. 100 personnes, ouais, c'est ça. On reçoit Soyo, club de Corinne Diacre. Corinne Diacre, libéraux. Je suis grande, tu vois, je fais presque 1m80, mais elle me mangeait sur la tête.
Et, pose, ouais.
et je suis attaquante. Et donc, je suis au duel, c'est mon vis-à-vis, quoi. Je touche pas le ballon du match, quoi. Elle m'enlève tout de la tête. Elle est solide. Et puis, elle a une expérience de dingue. Elle a déjà quand même au moins bien 5-6 ans de plus que moi. Moi, je suis toute jeune, j'ai 18 ans. Donc je me noie un peu dans ce premier match. En même temps, c'est le match où il faut faire tes preuves parce que derrière, si tu veux vraiment rester titulaire, à un moment donné, on était dans le dernier quart d'heure, ballon qui traîne dans la surface, on était mené largement, je crois qu'on perdait des 3-0. Et un ballon qui traîne à la surface, la gardienne qui est sortie, qui s'est trouée, et j'ai plus qu'à mettre un plat du pied et à marquer, quoi, le pousser au fond, et puis le truc, je l'envoie au-dessus. Et le machin, il est allé dans les tribunes, comme ça. Et là, dans les tribunes, les gens donc qui étaient là, les quelques personnes qui étaient là, disent... je sais pas qui sont allés recruter, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas mettre un pied devant l'autre ou je sais plus, un truc comme ça. Il y avait mon père qui était là et qui entendait. Et donc, c'est difficile parce que lui qui s'est jamais même posé la question de si j'avais une légitimité à jouer au foot parce que elle était intrinsèque à mon être de me voir me déployer avec ce ballon. C'était évident pour lui. Et quand je me retrouve dans la config institutionnelle, il est là aussi pour assister un petit peu aux critiques, ce qui était logique parce que en tout cas ce fait de jeu là était critiquable, j'aurais dû marquer. On est bien d'accord, on est au meilleur niveau. Mais bon voilà, et ça dit long sur en fait mon état émotionnel et le manque de confiance aussi que j'avais confiance en mon football mais j'avais pas confiance à ce que au fait de pouvoir exister au haut niveau et à juste titre puisque j'avais été privée de toute la ascension qui mène au haut niveau. La saison est en demi-teinte, je suis une fois remplaçante, une fois titulaire. Je joue un peu très vite, j'ai envie de jouer moi, je me fous en fait du haut niveau. Donc très vite je demande aussi à aller jouer en régional, en division d'honneur à l'époque pour toucher le ballon, mais je suis quand même un bon élément. Donc l'entraîneur, il me garde un peu là au chaud tout en me jouant le chaud et le froid parce qu'il me met parfois il m'aligne pas. Voilà, donc ça a été c'est une période un peu compliquée. J'ai pas vécu un foot à 11 dans le fun quoi. J'ai retrouvé du fun maintenant finalement en rejouant au 5-5 en sororité avec des copines quoi.
OK. Bon au moins ça retrouve ce fun, c'est cool. Et excuse-moi cette question peut-être naïve ou bête mais est-ce que tu peux faire une photo du football féminin à ce moment-là?
Quand j'ai 18 ans?
Est-ce que y a des femmes qui en vivent? Est-ce que on parle de joueuses professionnelles? Pas du tout. Comment est-ce que ça fonctionne?
Non, alors toutes les joueuses sont amateurs, de toute façon gérées par la Fédération française de football, mais par la Ligue de football amateur au sein de la FFF. Et donc, toutes les joueuses sont soit étudiantes, comme moi je l'étais, travaillent, et puis on s'entraîne le soir entre 20h et 22h sur un stade annexe. Pourtant, en Marseille, c'est quand même une ville fleurie en stade. Sur un stade qui est tout juste tendu et qui a des limites s'il n'y a pas encore des mottes des tops tu vois sur le terrain. J'exagère un peu, mais bon, on nous disait vous avez en visu le Vélodrome. C'est vrai qu'on apercevait un peu le Vélodrome, donc ça nous suffisait à mais non, sinon ouais, totalement des joueuses amateurs. Et puis des clubs familiaux. Je parle, là c'était le Celtic Marseille, mais il y avait aussi Juvisy à l'époque, Soyaux qui est une section 100% féminine. C'est des clubs qui sont montés par l'audace d'un ou d'une personne qui a envie, soit parce que parent d'une jeune fille qui a envie de jouer au foot, donc il faut créer la place. Souvent ça vient des parents qui dont les jeunes filles veulent jouer. C'est rarement les clubs qui sont déjà installés et qui ont des sections masculines qui disent ah ben si on va faire la place pour créer une section féminine. À cette époque tu viens avec tes gros sabots et avec ta gouaille et tu dis bon ben là il faut monter une section féminine parce que j'ai tant de filles qui veulent jouer, voilà, elles sont du quartier, et petit à petit ça grossit. Mais c'est l'œuvre de quelques personnes, quoi. Donc ouais, on est sur un endroit de zéro professionnalisation. Pas d'infrastructure, des difficultés à pouvoir proposer des entraînements, des groupes de joueuses réduits. Parce que difficulté à avoir aussi 22 joueuses, un groupe étoffé et puis 22 joueuses qui sont déjà au haut niveau. Nous, je me souviens quand on avait fait jouer, quand il y avait 14 joueuses mais sur le banc, pour faire tourner l'effectif, c'était une galère. Et puis et on était promus, donc il y avait pas d'argent. Et puis même, je jouais à l'époque à Billy, je jouais à Corinne Diacre, il y avait pas encore Gaëtan Tinet à mon époque, mais en gros des joueuses qui aujourd'hui ont un statut qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 20 ans, quoi.
Ouais. C'est à quel moment du coup peut-être des équipes comme moi je retiens de mon point de vue extérieur et non spécialiste, je retiens forcément tu vois l'Olympique Lyonnais qui a été une des premières équipes selon moi, hein, peut-être que je me trompe, tu me diras, club pro à investir, à créer une vraie section. Ça arrive combien de temps après?
Ça arrive au moins, je dirais 2010, parce que finalement la Coupe du Monde 2011 commence à être un dynamiteur à l'échelle internationale, et je pense que Montpellier et Lyon, avec Nicolin et Olas, se positionnent légèrement en amont sur une ambition, en tout cas sur une intention de mener à bien le projet d'une section féminine, d'une structure féminine, parce que c'est des entrepreneurs, hein, c'est des businessmen, donc ils sentent qu'il y a un coup à jouer. On commence à en parler. En l'occurrence, ils se trompent pas, puisque 2011 vient faire la part belle à la pratique féminine. C'est les premiers matchs qui sont télévisés sur Eurosport. Ouais. C'est commenté à l'époque sur Eurosport par Brigitte Henriques, qui a été ensuite vice-présidente de la Fédé de foot. Je me rappelle d'avoir vu des matchs, quoi. Alors c'est intimiste parce qu'on est sur Eurosport, chaîne privée, payante. Mais il y avait quand même des choses à voir, et puis en Allemagne c'était déjà depuis quelques années, depuis je pense 4-5 ans c'était monté, et donc forcément le modèle européen commençait à s'exciter sur le fait que si ça marche dans un pays comme l'Allemagne, ça peut marcher en France. Et on le voit maintenant, l'Angleterre s'est extrêmement développée, l'Espagne se développe bien, et puis l'Italie prend le pas, le Portugal. Je parle pas des pays nordiques qui sont encore eux en avance, mais parce que le sport, parce que le football est vierge de moins de préjugés dans ces pays-là. parce qu'il a autant il est dans les pays latins de Europe, le latin c'est clairement chasse gardée des hommes. Autant dans les pays nordiques, il y a moins de, il est moins connoté masculin, il est plus neuf quoi le football. Donc forcément, on arrive à, en tant que femme, à progresser, à prendre la place plus vite et à se professionnaliser plus vite.
Et c'est quelque chose, c'est un choix auquel t'as songé justement de déménager, de t'exporter dans un autre pays où où il y aurait peut-être un petit peu plus de place.
Non, vraiment, c'était moi, c'était impossible parce qu'encore une fois, on avait un double projet. Donc il y avait moi, j'avais un projet de devenir professeur de PS. Enfin, j'étais à la fac. On construisait notre vie à un endroit. On était implanté à un endroit et le foot venait enrober, venait donner de un exutoire finalement, une partie de plaisir quoi. Alors que aujourd'hui, une joueuse fait carrière, fait le foot, et même si elle a un autre projet, elle a des équivalences, elle réfléchit à comment à faire en sorte que le projet professionnel à suivre pour une reconversion future vienne se substituer tranquillement au foot. Voilà, nous, il n'y avait pas cet algorithme. Nous, ouais. Il y avait notre projet de vie et le foot était un moment de détente. Jamais, on imaginait pouvoir en vivre. Aucune. Ouais. Et même des joueuses comme Camille Abili, Corinne Diacre, dont je parlais tout à l'heure.
Ouais, ok. Mais c'est dingue et à la fois, ça fait du bien de faire un peu un retour en arrière et de se dire... l'évolution qu'il y a pu avoir en 20 ans, parce que, alors certes aujourd'hui, on est très loin du niveau des hommes et on en reparlera. Et quand on voit les sommes astronomiques, les caprices, les fous rires mal placés et tout ce genre de débat assez houleux qu'il y a, c'est dingue de voir l'évolution qu'il y a pu avoir en 20 ans et c'est rassurant aussi de se dire qu'il y a quand même une évolution et que ça n'a pas stagné. Ça va pas stagner, quoi. Donc,
Non, c'est sûr, puis... ça va crescendo. Et puis, si tu veux, le 2019, cette Coupe du Monde en France, c'était inespéré de voir 45 000 personnes pour un France-États-Unis en quart de finale au Parc des Princes. D'où je viens, je suis pas une pionnière. Enfin, je veux dire, j'étais dans les tribunes du Parc des Princes ou même j'ai été voir des matchs à Reims avec les pionnières rémoises, donc la première équipe officieuse et officielle devenue officielle des premières équipes de France, quoi. Mais alors, si moi j'étais sidérées d'admiration, elles avaient l'impression que d'avoir basculé dans une autre planète quand elles sont dans ce Parc des Princes ou au Stade de l'Aune à Reims, ouais. devant Megan Rapinoe et compagnie, ces équipes-là qui au final ont un niveau de jeu qui est bien supérieur peut-être, et je vais peut-être faire hurler certains et certaines, mais à l'épopée Platini des années 80, parce que c'est encore une fois il y a l'histoire, c'est-à-dire que quand on donne les moyens aux femmes de s'exprimer, ben finalement on rattrape le retard et la vitesse du jeu, les qualités techniques, tactiques, elles s'affinent. Ouais. Et moi, je pense que le foot masculin, à chaque époque, il est badé. À l'époque de Platini, il était badé. Mais aujourd'hui, si tu remets un footix qui regarderait un match de Ligue des Champions entre le PSG et la Juve, tu le mets devant un match en 82 de l'Euro 82 de Platini, je pense pas qu'il prenne autant de plaisir. Et je pense qu'il pourrait même faire les mêmes réflexions que ce genre de d'observateurs font à l'égard de la pratique féminine, ouais. En disant tous les stéréotypes que l'on connaît, ça va pas assez vite, c'est pas assez puissant,
je ferai l'exercice.
L'exercice, mais ça serait vraiment intéressant. Moi, c'est quelque chose, je me pose la question. Bon, alors je prends en 82 parce que c'est ça évoque, c'est évocateur à plein d'égards, et puis ne serait-ce que dans les tenues.
Oui.
Et puis voilà, les corps de Platini, de ces joueurs de l'époque, c'était pas les mêmes que les corps des footballeurs aujourd'hui. Et de la même façon que moi, je m'estimais musclé quand je m'entraînais 4 fois par semaine à 18 ans au Celtic, mais quand aujourd'hui je vois une Khadidia Toudiani, une Marie-Antoinette Katoto, une Wendy Renard, enfin bon, je sais, elles ont des corps d'athlètes, c'est hallucinant.
Ouais.
Nous, il n'y avait pas une joueuse qui faisait une transversale de plus de 30 mètres, à part Corinne Diacre en 2000. Aujourd'hui, c'est monnaie courante, mais pourquoi? Ouais. Parce que bon, ben on leur a laissé l'opportunité d'accéder à ce niveau, et elles ont les qualités pour. Donc
bien sûr. Ouais, et puis quand des rôles modèles se créent, ça se permet de vraiment de se rendre compte que c'est possible. Tu vois, il y a un très beau film. Alors c'est un film d'escalade qui montre et qui illustre ça. C'est ça s'appelle The Done Wall. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Vraiment, je te le recommande.
Oui.
C'est l'histoire de deux alpinistes, dont un, je crois, auquel il manque 2 doigts, qui vont grimper une des falaises les plus dures.
Ah, le capitaine à Yosemite.
Exactement.
Ouais, ouais. Je l'ai vu. Pardon.
Et tu vois, ils grimpent cette montagne. Mm. Ils le font, je crois, en une semaine ou 8 jours.
Oui, avec des badauds en bas qui les regardent, qui touchent toute la journée, savoir s'ils ont progressé sur la paroi et tout. Ouais, c'est impressionnant.
Exactement, et ils posent leur campement sur la paroi et ils dorment pendant 6 jours sur la paroi. Et maintenant, en fait, c'est une falaise que hommes et femmes arrivent à monter en 24 heures. Simplement parce qu'on a vu quelqu'un le faire, donc on se dit que c'est possible. Et du coup, il y a un engrenage qui se crée et qui se dit qu'il n'y a plus de limite, quoi.
Ouais.
Et ce qui est dur, je pense, c'est d'être le premier ou de repousser les limites. Effectivement, tu fais bien de féliciter des femmes comme Corinne, tu vois, qui peut-être elle avait peut-être un peu plus ce goût justement de la win ou quoi, et qui voulait repousser les limites.
Ouais, et puis déjà un physique à l'avantage, un physique puissant avant même qu'elle côtoie les salles de muscu et les 5 ou 6 entraînements par semaine déchargés du travail.
Bien sûr. Bien sûr.
Donc, je pense oui, c'est et puis les pionnières, quoi, les pionnières rémoises, vraiment, j'insiste, parce que au début, avant de parler de professionnalisation, il faut déjà qu'il y ait des filles un peu fougueuses qui aient envie, quoi, de voyager, de faire voyager ce football, d'aller jouer des tournois à l'autre bout de la planète. On est quand même dans les années 70, on n'est pas sur des voyages faciles.
Bien sûr.
Et voilà, et puis la notion de, parce que là on parle foot professionnel, mais la notion aussi de bande, c'est parce qu'il y a les rôles modèles, ils sont pas individuels, il faut les replacer au centre du terrain. Dans le football, c'est l'équipe, c'est la bande d'amis, c'est voilà, comment tu voyages à plusieurs.
Ouais.
C'est ça à l'origine qui fait que le football, ça devient du football plaisir.
Bien sûr.
Et que ça le reste.
Tu as raison. Mais d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, tu vois, une autre petite recommandation de contenu. Il y avait eu un podcast qui s'appelait les grands récits sur les pionnières dans le vélo et du Tour de France. Moi, ça m'a fait hurler que quand même certains journalistes ou certains grands rédacteurs chefs disent premier Tour de France de l'histoire féminin, tu vois, ça m'a fait un peu mal, alors qu'il y a des femmes extraordinaires qui dans les années 60 en fait sont organisées leur propre tour avec l'aide de quelques garçons courageux aussi et qu'on fait vivre ce tour pendant quelques années. Je crois que ça a même duré une vingtaine d'années, quoi, jusqu'à temps que ça soit arrêté. Et dont le nom est devenu propriétaire par ASO, quoi. Mais bon, voilà. Enfin, tu vois, c'est des belles histoires.
C'est le premier auquel ils s'intéressent. C'est pour ça qu'c'est depuis leur prisme.
Ouais.
La société est bâtie depuis le prisme de l'homme. Je mets l'homme, hein, le système en tout cas patriarcal, qui va à un moment donné s'intéresser à quelque chose et de nouveau.
Ouais.
Donc, finalement, c'est toujours le premier, puisque on s'intéresse pas à ce qui a été fait avant.
Ouais.
Donc voilà, mais c'est pour la petite parenthèse.
Bah écoute, non, mais je suis ravi de déconstruire tout ça avec toi et avec toutes les autres invités que j'ai pu interviewer sur le sujet et ça fait du bien. C'est un long chemin, c'est pas facile, mais au moins moi je me dis que j'avance et si je peux le partager à d'autres c'est toujours chouette. Pendant combien de temps du coup tu joues au haut niveau et t'as parlé de Juvisy aussi, t'as fait quelques années là-bas.
Ouais, j'ai joué à Juvisy.
Est-ce que t'as des petites anecdotes, des petites choses à nous raconter sur ces années?
Sur ces années-là, je joue de 2000 à finalement 2012, en passant par beaucoup de clubs à Marseille, en DH. J'arrive en région parisienne parce que je deviens professeur des écoles. Et là, je vais jouer à Juvisy. C'est le club le plus proche et puis le plus sérieux aux alentours. En l'occurrence, je fais des entraînements avec la nationale 1, avec le meilleur niveau, mais je joue principalement en DH.
Ok.
Et des souvenirs. Des souvenirs, oui, de terrain, bien sûr, de vestiaires, de joie dans les vestiaires, moi, je suis quelqu'un qui aime chanter, donc et puis surtout quand j'ai la pression, j'aime bien décharger ça comme ça, donc des moments de fête, des matchs, je dis, où on est contente de se retrouver. Ça fait partie de la semaine. Elle est alimentée que par les retrouvailles à l'entraînement et au match avec des copines. Donc à un moment donné, au début, on y va, on a la joie au corps, et puis petit à petit je commence à m'en écarter parce que finalement il y a toutes les générations, il y a de plus en plus de jeunes, moi je vieillis, je trouve plus trop ma place, enfin il y a un petit conflit générationnel, et puis j'ai envie d'autre chose, quoi. J'ai envie de, c'est quand même une bulle, hein. C'est une bulle où il faut se dire que on y a peu de place pour le reste, pour les autres loisirs, encore plus parce que on devait s'entraîner le soir et qu'on n'avait pas la chance de pouvoir faire que ça. Donc finalement, au bout d'un moment, j'ai besoin d'aller me nourrir ailleurs.
Ouais.
Des matchs de folie, quoi, sur des terrains qui n'ont ni queue ni tête, sous la neige, face à des équipes. Ou des fois t'en prends 15 et des fois c'est toi qui les mets et tu sais pas pourquoi alors qu'on est au même niveau, tout est un peu hétérogène, tout est un peu en cours de progression, donc il y a des choses des choses absurdes.
OK. Et toi, il y a beaucoup de, enfin il y a une des questions que je voulais te poser, c'était qu'on beaucoup de gens qui sont réfractaires au football, tu vois, les violences qu'il peut y avoir à côté des terrains, tu vois, qui ont explosé, hein. Je crois que les violences sur arbitre ont fortement grandi. Il y a des sujets d'homophobie, de discrimination aussi raciale, tu vois, de la part des parents, de la part et ça se retrouve beaucoup dans le football amateur, tu vois. On essaye d'éradiquer tout ça des terrains professionnels aujourd'hui parce que c'est sous les feux des caméras et des préfectures de police. Du coup, on essaye d'y mettre fin le plus possible. Les clubs investissent beaucoup en communication pour policer tout ça, pour former les joueurs. Mais c'est pas le cas du monde du football amateur. Est-ce que le monde du football féminin peut être aussi rude, tu vois, que le football masculin, qui effectivement reste un sport populaire avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'espoir aussi. Je pense que c'est l'espoir qui crée la colère.
Et puis aussi beaucoup de besoin aussi de se positionner sur un investissement économique. Donc forcément, ça crée des tensions parce que quand l'argent se mêle.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Il y a le poids de la société et du capitalisme qui vient se poser sur le terrain, et le terrain des filles c'est le même que le terrain des hommes, donc ouais. Forcément il y a tout ça, il y a tous ces enjeux, et puis surtout partir du répondre au début de ta question, dans le football amateur et la pratique féminine telle qu'elle est encadrée, au départ, et je pense que c'est encore pas mal le cas, par des hommes qui viennent du football masculin, et qui au plus haut niveau, d'anciens placardisés du foot masculin, qui vont venir du coup en coacher les meilleures équipes féminines, puisque ils ont le passé, l'expérience du foot masculin. Donc on estime que même s'ils servent plus chez les hommes, on va les mettre chez les filles, il y aura toujours une place parce que c'est moins bon. Ouais. Je le caricature, mais c'est quand même une réalité.
Il y a de nombreux cas comme ça, ouais.
Il y a de nombreux cas. Et puis surtout,
qui ramènent leur toxicité peut-être parfois.
Bien sûr, c'est ça. Et puis l'ego.
Ouais.
L'ego de attends, j'ai été jeté de là-bas et maintenant je me retrouve à entraîner des filles. Comment dans mon orgueil je vais réussir à rendre cette équation belle, tu vois, même pour le parcours souvent qui est personnel, c'est-à-dire au début les coachs qui arrivaient, ils avaient une méconnaissance totale de la pratique féminine, les médias aussi, enfin d'ailleurs jusqu'à encore cette Coupe du Monde 2019 où c'est rentré dans les clous, mais c'est avant il y avait quand même une joueuse sur trois dont le nom était écorché, enfin ça savait même pas comment les joueuses s'appelaient. Donc en fait, et dans le football amateur, c'est aussi des encadrants qui sont formés par un système qui perpétue la vision d'un football spectacle, rentable, professionnel, et du coup à qui on ne laisse rien passer, puisque de toute façon chaque spectateur, chaque supporter sait mieux jouer que les 22 qui sont alignés. Donc ouais. Il y a toute cette pression, et puis voilà, c'est un sport de compétition. Donc ouais. Ça vient rencontrer la société de compétition et de comparaison dans laquelle on vit, et qui tant que ça n'est pas déconstruit, ça sera difficile aussi de renverser la table du football spectacle.
Ouais, mais j'imagine. Et en plus, si on scinde les deux, c'est toujours très compliqué. J'ai eu des super échanges, tu vois, avec Olivia Piana et Isabeau Courdurier, qui l'une fait du paddle et du wing foil, et l'autre fait du VTT enduro. Et en fait, elles expliquaient que c'était des sports qui étaient nouveaux, et les fondateurs des sports avaient fait des super initiatives en fait pour que les prize money soient les mêmes, que les médias qui couvrent les événements s'obligent à représenter autant les hommes que les femmes. Et en fait, c'est vrai que ça change tout quand dès l'origine des événements ou de l'origine des fédérations, il y a cette volonté là de partir sur un pied d'égalité qui change tout, alors que quand t'as un sport qui est déjà un sport de multimillionnaires, hein, qu'on se le dise, dans les années 2000, ils sont déjà des stars nationales et internationales, qui vient essayer de se greffer.
Oui, bien sûr. Et puis l'importance aussi d'avoir des figures féminines en bord de touche, dans les instances dirigeantes, dans le corps arbitral. Et ça change, mais depuis peu. Ouais. Et quand y en aura en nombre, et qu'elles seront largement convoqués à l'endroit de leur statut et de leurs compétences, ça viendra forcément, ça vient mettre un coup de pied dans la fourmilière, et forcément on change de prisme, parce que les femmes n'ont pas le même prisme, la même vision sur la société que les hommes l'ont. Donc il y a une grille de lecture du jeu à remodeler.
Ouais.
C'est voilà, et ça, sans en oublier ce qui fait l'essence du jeu, qui est le facteur plaisir. Et tant que on retrouve pas ça et qu'on retouche pas ça du doigt, bon bah là on a l'impression qu'on nous vole notre football. Puisque ouais. Maintenant, pour aller voir un match de Mbappé au Parc des Princes, il faut débourser 200 balles. Ouais. Voilà, ça va de pair, c'est-à-dire que même le spectacle, on peut plus se l'offrir.
Ouais.
Donc bon, déjà que le jeu c'est difficile en tant que femme, mais ouais. Le spectacle.
J'imagine. Bon, je vais peut-être faire un saut un petit peu dans le temps, mais j'avais vraiment envie de te parler de l'aventure Little Miss Soccer.
Oui.
Alors si je peux rapidement le présenter, j'ai l'impression que ça part de deux amies, deux femmes qui veulent présenter le foot féminin tel qu'il existe partout à travers le monde. Et peut-être que vous avez voulu aussi retranscrire l'aventure un peu amateur que vous avez que vous avez vécu vous, mais en le montrant avec d'autres prismes, avec des femmes de partout dans le monde. Donc vous avez visité plus de 11 pays, je crois. 15 pays. Pardon, excuse-moi si c'est pas précis. Tu vois, j'avais noté 11. Donc les États-Unis, bien sûr, avec une vision très universitaire, très professionnelle. Le Mexique, le Pérou, l'Inde, le Japon, le Ghana, l'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Une aventure de dingue. Franchement, je mettrais tous les liens.
Avec une grosse empreinte carbone.
C'est vrai, mais tu vois, il y a une phrase que j'aime bien dire. C'est effectivement ne pas voyager économise de l'empreinte carbone, mais ne pas voyager, ça rend con. Tu vois, et je pense que peut-être, tu vois, déjà c'était il y a quelques années qu'il y avait peut-être un tout petit peu moins de conscience à ce niveau-là. Et que votre message, il est important et que ce que vous avez fait, ça restera à vie. Et que n'importe quelle femme ou homme pourra le voir. Et maintenant que ça existe, tu vois, et c'est pas éphémère, c'est pas juste dans votre
contexte. Oui, non, mais en gros, là, je...
Et rien n'est parfait, tu vois.
J'évoque ça parce que c'est quelque chose qui, avec le recul sur ce tour du monde, me donne la chair de poule. Parce que je me dis que, voilà, en... 15 pays, 5 continents avec les trajets qu'on a fait, c'est énorme. Et oui, c'est bien sûr qu'il faut le conscientiser, qu'on peut pas se dire ouais, ce qu'on a fait, c'est tout est génial, parce qu'aujourd'hui on est face à un état de la planète qui fait qu'on peut plus le cautionner. Mais en revanche, là où je te rejoins, c'est-à-dire que montrer l'ailleurs. Et surtout le montrer dans une rencontre qui est profonde de sincérité et qui est d'égal à égal. C'était ça qui était important aussi pour Candice et moi. C'est-à-dire que là, on va rencontrer nos homologues footballeuses pour partager notre histoire. C'était pas descendant. C'est-à-dire que on a envie d'échanger avant même de. On va pas récupérer leur histoire. On va échanger. On va se mettre à nu nous aussi. On va parler de nos ressentis, de ce que le terrain nous permet de faire sauter comme barrière, de comment ils façonnent notre personnalité. Et finalement, en les rencontrant elles, on se rencontre nous. Et vice-versa, je suppose. Mais en tout cas, voilà, c'est une rencontre de l'ailleurs, mais qui est si proche finalement de nous. Et qu'aujourd'hui, on continue à alimenter et à nourrir en France. Parce que aujourd'hui, du fait de la visibilité de la Coupe du Monde 2019, nous, à notre petite échelle, ben, on a participé de cet état des lieux et de se dire, regardez, ça joue pas qu'ici, ça joue partout, et ça joue pas qu'entre 6 et 30 ans au moment du jubilé, ça joue jusqu'à 80 ans, et ça joue pas sur des terrains de foot que conventionnels, ça joue aussi sur un terrain au milieu des lamas, à 3800 mètres d'altitude dans les Andes, mais aussi, voilà, sur un terrain d'herbe jaunie en Afrique du Sud. Voilà, en fait, voilà, peu importe les crains, tant qu'il y a l'ivresse, et c'est ce qui nous a animés, c'est cette euphorie de se dire waouh, on va mettre en lumière toutes celles qui font le foot comme nous. Et en fait, on était même, je pense qu'on s'imaginait même pas rencontrer autant de footballeuses, autant engagées et aussi lucides, en fait, sur l'impact et la voix qu'une footballeuse a quand elle est sur un terrain, enfin, qu'une femme a quand elle est sur le terrain de football et qu'elle devient footballeuse. Et c'est ça aussi, c'est renouer avec le football plaisir, renouer, se rencontrer, rencontrer nos pairs et, in fine, dire que notre voix est politique et en fait, mettre lancer un peu l'alerte, être un peu lanceuse d'alerte, à se dire, prenons, on a pris l'espace, on joue, on a les terrains, de gré ou de force, maintenant prenons la parole et avec légitimité, défendons ce pourquoi on est sur ce terrain et en quoi ça nous amène aussi à être des femmes plus libres dans la société.
Ouais.
Voilà. En amenant avec nous une cohorte de personnes, femmes ou hommes, qui ont envie de se libérer des carcans, quoi.
Ouais, bien sûr. Écoute, moi, j'ai été très touché par plusieurs vidéos que vous avez fait et je mettrai tous les liens sur YouTube parce que franchement, ça vaut vraiment la peine et je trouve que votre travail mérite vraiment d'être mis en lumière parce que il y a effectivement ce travail journalistique très émotionnel, tu vois, de voir. Moi, j'ai été touché par deux vidéos en particulier. Je pense celle en Afrique du Sud où on voit ces femmes qui disent qu'elles ont 60 ans, 70 ans. Mmh. Elles jouent au foot. Elles disent qu'elles sont mal au corps quand elles sont assises et que quand elles jouent au foot, elles oublient toutes leurs douleurs et que c'est une vraie voie d'émancipation à la fois juste avec leur corps, quoi. Mmh. J'ai été très touché par ça et très touché aussi au Pérou, justement, parce que vous avez dû financer le fait qu'elles ne travaillent pas pendant que vous jouez au foot avec elles.
Donner un salaire de footballeuse, finalement.
Peut-être que c'est le premier salaire
de footballeuse de leur carrière.
Au Pérou, en tout cas, de leur carrière, sûrement, j'imagine. Quoi. J'avais une question par rapport à ça. C'est un long reportage avec beaucoup de voyages, mais combien de temps ça se prépare à l'avance? Et puis, d'où est venu le déclic? Est-ce que tu peux raconter un petit peu les anecdotes et la genèse de ce projet-là?
Alors, ça se prépare finalement dans les locaux de la rédaction d'Eurosport. On est en 2015, il va y avoir la Coupe du Monde au Canada, Coupe du Monde féminine, et lancement d'une nouvelle émission qui hebdomadaire sur l'actualité de la division 1, donc de la D1 féminine, et de l'équipe de France, qui va jouer ce mondial à la fin. Donc là, on est en septembre 2014 et le mondial a lieu en août 2015. Et donc, on a une fenêtre de une heure tous les lundis soirs pour faire la part belle à la pratique féminine du football et aux actrices et à certains acteurs d'ailleurs aussi qui œuvrent. Et donc, pendant un an, on joue le jeu de se dire, voilà, on va mettre cette équipe de France sur orbite, on va la faire connaître aux gens, on va raconter le football autrement, la fameuse grille de lecture du jeu dont je parlais tout à l'heure, et on va essayer de rentrer dans l'histoire des footballeuses qui sont intéressantes à plein d'égards et qui sont pas juste intéressantes dans les 16m50. Et donc, voilà, donc on nourrit tout ça. Moi, je suis journaliste sur cette émission. Je fais un petit peu la bio de l'invité. J'écris une lettre à l'invité. Donc c'était passionnant parce que ça m'a permis aussi moi de découvrir mes pères et dans ce qui fait que elles en sont arrivées à côtoyer le haut niveau en partant de loin. Et puis il y a aussi des consultantes, et notamment Candice Prévost, qui est une ancienne joueuse du PSG et aussi de l'équipe de France, avec qui je nourris un lien cher et puis surtout des intentions communes dans le fait qu'il faut que la pratique féminine brille. Et donc on est là et l'émission est géniale. On est une petite famille, on se donne parce qu'il faut aller chercher des images, dépoussiérer des images qui ont été prises par une caméra posée sur une estrade Kiloutou au gré de au détour de d'un match parce que enfin ouais, vraiment on en est là quoi, on récupère des choses comme il n'a jamais été diffusé avant, un peu on a des choses depuis 2011, Coupe du monde 2011, mais bon c'est récent, on a 4 ans d'images. Ouais. Voilà, donc il faut faire une émission de briques et de brocs, mais on y va avec avec l'entrain. Et là ça se termine fin de saison, fin de Coupe du monde, finale de Coupe du monde. On nous dit dans les couloirs, ben voilà, ça reprendra pas pour la saison prochaine. Donc nous, on est un peu éberlués. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Enfin, on a une Coupe du Monde en France dans 4 ans. Là, c'était un tremplin idéal. Enfin, fallait y aller. Et puis il y avait Eurosport qui avait eu l'audace de diffuser un peu d'être diffuseur de la pratique féminine. Donc c'était un peu D8 et Eurosport. Et donc on se dit, enfin avec Candice, on se dit voilà, utilisons nos casquettes journalistes, médias, commentatrices, notre réseau et allons faire autrement, donnant une visibilité à ce que sera le football lors de la Coupe du Monde 2019, rapportant quelque chose de grand quoi, d'inédit. Ouais. Et donc très vite on se dit pour ça il faut pas montrer que les joueuses labellisées FIFA, il faut montrer les joueuses qui comme nous en fait prennent du plaisir simplement sur le terrain et voilà et qui s'émancipent grâce à ce football qui dont l'être est façonné par la pratique du football. Et donc on envoie du Google Alert à foison, on se dit pareil, il y a pas d'article, si on tape football féminin au Pérou il y avait rien. Par contre, si on commence à mettre foot, femmes, women, soccer, des mots clés comme ça dans des Google Alerts, on voit arriver quelquefois des petits articles qui pointent le bout de leur nez. Et donc on se met tout ça à gauche, on étudie, on voit les entrées éditoriales qu'on peut aller chercher et les thématiques qu'on peut aller fouiller dans chaque pays. Et petit à petit, il y a une carte du monde, une map monde de football qui naît, et on dit allez, on y va, on a besoin d'une caméra et d'un ballon, on y va. Ouais. Et voilà. Et donc on se dit de toute façon les médias ils n'auront rien prévu à part le live et encore. Pour mettre à l'honneur cette compétition, ils vont avoir besoin de contenu, ils vont faire appel à nous. Mais c'est un peu naïf parce qu'en réalité les documentaires, enfin, tu les vends avant parce que sinon, ça, c'est... une fois que c'est fait, c'est racheter une bouchée de pain pour être diffusé. Et puis bon, de toute façon, nous, le but c'était de sortir de l'invisibilité les femmes, les footballeuses. Ouais. Donc quoi qu'il en soit, même si on nous avait proposé 50 euros tant que le documentaire était vu, voilà. Après, il y a une logique économique évidemment. Il faut se payer. Moi, c'est mon métier. Je suis journaliste au moment où je démarre cette aventure. Et puis, c'est de la prod, quoi. Ouais. il y a des pays, il y a une logistique énorme. Donc voilà. Donc, on se lance avec une cagnotte de crowdfunding au départ. Okay. Ouais. On récupère 30 000 euros et on se dit qu'au moins pour les billets d'avion, ça va subvenir à nos besoins sur les premiers pays. Et on a presque été même au bout avec cette enveloppe-là. Mais après, il faut qu'il y ait une prod, il faut que même si c'est niche, même si le sujet est niche, il faut faire valoir le timing et le timing Coupe du Monde. Il vient quand même mettre une petite étincelle dans les yeux aux annonceurs, aux financeurs et donc tant bien que mal et aux diffuseurs. On arrive à se frayer un chemin grâce à un super producteur aussi qui est un homme totalement déconstruit et qui croit au projet d'entrée. Sans même qu'on ait besoin de presque de le convaincre, et donc ça c'est agréable. Derrière ça fuse et derrière on y va ensemble quoi.
Ok.
Voilà.
Ouais, donc il faut quand même se battre pour diffuser un reportage comme ça. Et c'est une de mes questions, tu vois, comment c'est perçu par certaines institutions ou même par les autres médias. Quelqu'un vous fait confiance, mais
C'est dur d'aller toucher les médias, et nous on a eu la chance d'être diffusés sur Canal+, qui venait de racheter les droits de la Coupe du Monde, mais au départ, rien n'est évident. On a mis un an à obtenir la signature parce que finalement c'est un projet qui est pas mené en interne par la rédaction de Canal+. C'est un projet qu'on vient leur proposer, donc c'est pas leur bébé. C'est un peu un ovni. Nous, c'est notre premier documentaire. Moi, je suis journaliste, mais j'ai jamais fait de format long. Puis c'est un projet, c'est une aventure. C'est pas que filmique. C'est-à-dire que voilà, il y a un tour du monde. Donc le tour du monde, il a duré peut-être un peu plus d'un an. On n'a pas passé 400 jours à filmer pour le projet. C'est notre aventure, donc il faut soutenir aussi notre voyage à nous. Il faut accepter ça. C'est pas tu décides pas. Ouais, on va tourner 4 jours en Argentine et puis on revient à Paris, on te rend les rushs. Non, là il y a toute une logique aussi de faire la boucle.
Ouais.
Donc c'est un peu effrayant. Donc c'est reçu genre ah ouais, elles y vont quoi, enfin genre ah ouais. Et puis après il y a quelqu'un qui mord à l'hameçon parce que il y a un combat militant, il y a un engagement féministe qui est quand même très assumé, et dans les rédactions il y a quand même des personnes comme ça qui sont touchées par ces luttes là et par le besoin aussi de montrer les femmes dans leur déploiement. Donc on arrive à ce que ça passe sur Canal.
Mais je suis pas étonné que ce soit eux qui aient récupéré le sujet au final, parce qu'ils ont aussi l'habitude, tu vois, de faire des reportages qui sortent des sentiers battus ou qui vont parler de sujets inconnus, assez aventureux. Il y a eu l'été dernier, il y a eu un super reportage, tu sais, sur l'homosexualité dans le sport qui m'a énormément touché, qui s'appelle Il faut qu'on parle, qui était très beau, tu vois.
Les différentes personnalités du sport.
Beaucoup d'autres chaînes vont pas, tu vois, aller avoir cette sensibilité-là d'essayer de présenter des sujets inconnus, un peu tabous, peuvent déranger par moments, tu vois.
Ouais, mais j'ai envie de dire, la société là, elle est traversée de toutes ces questions. Ça devient des enjeux cruciaux. Donc aucune rédaction ne peut être hermétique, être hermétique à cela. Moi, je pense que Canal+ était beaucoup plus subversif il y a 15 ans que ce qui l'est aujourd'hui, mais en revanche, il y a quand même une politique d'embrayer les questionnements de la société. Et donc c'est évident, de la même façon qu'il y a eu aussi ce documentaire je suis pas une salope, je suis une journaliste sportive, ou enfin je sais pas si je l'ai bien d'ailleurs la formule, enfin bref, peu importe. Ouais. mais voilà, s'ils veulent continuer à garder l'élan de on vient traiter des sujets qui interpellent la société, et surtout en décompartimentant un petit peu, parce que le sport ne peut plus rester seul dans son coin. Il faut le mêler à la culture, il faut le mêler à la street, au lifestyle, il faut le mêler aux enjeux sociétaux, il faut le mêler à la politique. Enfin, il est déjà largement mêlé, mais pas toujours bien. Mais voilà, donc. Ouais, ils sont obligés d'y aller. J'ai envie de te dire, c'est pas, pour moi, je le perçois pas une grande audace à cela. Je perçois juste, c'est un traitement de l'information. Donc ça existe. La société est en train de changer. Donc, en tant que journaliste, il faut le relayer.
Ouais. C'est vrai. Si tu devais en retenir une seule rencontre de tout ce périple, je sais que c'est pas facile et que t'es quelqu'un qui se nourrit de ça. Donc, si je te dis d'en choisir une, peut-être de choisir, tu vois, un pays ou une anecdote, une ambiance qui vraiment t'a mis, je sais pas, une grosse claque, tu vois.
La Pride à Buenos Aires.
Ouais.
Avec des footballeuses, toutes militantes, qui en fait revendiquent être sur les terrains comme dans la société, comme dans la rue, et qui en fait ne compartimentent pas ce qui se joue sur le terrain et avec des droits sociaux et des libertés qui se réclament dans la rue, elles n'en font qu'un seul et même espace, et ça crée un espace d'expression bouillonnant, un espace de revendication, de lutte. Et franchement, la dynamique collective donc portée par le levier commun qui est le football, qui vient retrouver les combats de tous les jours, ça m'a mis un power. À côté d'elle, je me suis sentie participer à un mouvement puissant.
Ok.
Vraiment, c'était et très agréable, parce que de se dire quand on voit en miroir la France, il y a difficulté à je parle notamment des joueuses de haut niveau et des joueuses de la sélection nationale, la difficulté de ne pas se contenter de ce qu'elles ont, de demander plus parce qu'à juste titre elles le méritent, de aussi sortir du placard, de s'assumer comme elles le sont, il y en a peu. Enfin, en gros, je pense que on leur dit on vous a déjà, enfin ça a progressé, vous êtes déjà pro, on vous a donné de quoi en découdre et de quoi participer à votre professionnalisation, mollo. Et donc en fait, il y a une espèce de bulle, de chape de plomb qui se met comme ça et qui empêche la libération de la parole dans des milieux professionnels de haut niveau, j'entends. Oui. Parce qu'après, à côté de ça, on a des associations en France du type les Dégommeuses, dont où je retrouve à leur côté la même énergie que j'ai pu rencontrer à Buenos Aires avec les militantes. Mais voilà, en fait, de se dire que en Argentine, enfin en tout cas à Buenos Aires, le foot fait qu'un, et les femmes footballeuses ne font qu'un et presque qu'une seule voix, et qu'elles n'hésitent pas à venir encore appuyer là où ça va pas, ou là où des stéréotypes demeurent, là où des discriminations continuent d'exister. Et donc ça, pour moi, c'est essentiel, parce qu'on peut pas continuer à faire du football, et même à haut niveau, sans avoir conscientisé tout ce qui se joue, parce que sinon qu'est-ce qu'on va faire, on va reproduire le schéma masculin tel qu'il est mené, on va se laisser absorber par les sponsors, on va perdre l'essence du jeu. Et donc rendons-le militant, ce football. Le football, il est politique. Il est intime, il est politique, il est le reflet d'une société dans ses contradictions, dans ses dérives, mais aussi dans sa toute-puissance, mais la toute-puissance au sens valeureuse, vertueuse du terme. Et donc, quand on a la chance d'en être, de cette aventure, il faut la porter au-delà de son crochet ou du grand pont, quoi. Il faut que ça soit un grand pont d'intérêt général, quoi.
Ouais. Ce qui est pas facile.
Évident. Mais petit à petit, les consciences s'affinent, s'aiguisent, et puis les actions vont de pair. Donc c'est cool.
Bien sûr. On se rencontre aussi justement pour tes dernières initiatives, Share the Field. Alors, j'ai pas tout compris, je t'avoue, au premier abord, mais je me suis dit, tiens, ça a l'air chouette, c'est engagé. C'est pour justement développer le football féminin, mais pas que. Est-ce que tu peux expliquer avec tes mots l'organisation de... C'est quoi? C'est un événement? C'est un regroupement?
Alors, au début, c'est l'initiative d'une association qui s'appelle Sine Qua Non, dont l'objectif est de redonner la place aux femmes, aux jeunes filles, dans l'espace public. Et donc, redonner la place, par exemple, dans les rues, parce qu'une femme a besoin, quand elle parcourir seule dans la rue, elle se sent pas en sécurité. Donc là... Sine Qua Non, là, cette association va mettre en place une course nocturne avec un rassemblement de femmes, mais avec un parcours balisé, en disant voilà, la rue est aussi à vous, prenez-la, et vous avez le droit, pas que d'y marcher en ayant peur et en serrant les fesses et en se détournant des regards, mais non, en courant avec le peps et l'envie, et puis en sécurité, quoi. Et donc du côté du football, parce qu'elle s'intéresse à plusieurs sports, à la boxe, et du côté du football, c'est reprendre l'espace des city stades, qui sont des city, qui sont des stades municipaux, donc des espaces publics, et qui sont souvent très convoités par les hommes, par les garçons et les hommes, et qui, en gros, les femmes n'en voient jamais la couleur. Parce que c'est convoité et c'est occupé H24 par des mecs. Donc elle, c'est l'idée de se dire, oh, ben nous on va passer des partenariats avec les villes première couronne, les villes Paris et première couronne, et puis on va pouvoir donner l'accès aux jeunes filles. Voilà. Donc ça c'est la première étape, c'est prendre la place, prendre l'espace et devenir soi-même en tant que jeune fille modèle pour d'autres qui passeraient dans la rue, qui verraient des filles jouer et qui se diraient du coup c'est possible aussi, nous aussi on peut y avoir accès. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite à cette association sine qua non s'est mêlée une autre association qui s'appelle Football da Força, qui est une association qui œuvre dans plein de pays et qui elle a l'objectif de former des entraîneuse de football. Donc avec c'est une formation très reconnue, qui a différents statuts selon les pays, parce que plus ou moins d'accord avec la fédération de football des pays en question, mais en tout cas qui est une formation aboutie avec des modules très précis sur le football et l'aspect technico-tactique, mais aussi surtout l'aspect confiance en soi, estime de soi, management d'un groupe, comment créer du lien, la dynamique collective, tous les aperçus de l'ordre du canal psy qu'une joueuse de football est amenée à vivre. Et ces deux associations, elles se réunissent pourquoi ? Parce que ben les joueuses qui viennent dans les city, elles ont besoin d'être entraînées et pour être entraînées, autant prendre des personnes voilà qui ont les compétences et qui ont été formées pour ça plutôt que des placardisés on en revient au schéma de départ, mais où ne serait-ce que des éducateurs qui sont déjà dans les clubs de quartier et qui ont pas le temps et pas la possibilité aussi de venir jusque sur les city. Donc et puis d'ailleurs ces clubs de quartier et ces entraîneurs là qui sont encore souvent des hommes amènent leurs jeunes joueuses sur les city aussi pour ces questions de visibilité et d'exemple. Donc voilà, donc et Little Miss Soccer, mon association, est venue se mêler à ce projet qui est un projet donc à trois têtes quoi, pour mettre la loupe, mettre la caméra sur ces bonnes actions, sur ces bonnes initiatives et leur donner de la visibilité et puis les légitimer très fort à l'endroit de ce qui est heureux quoi, de ce qui se passe, de ce qui se fait grandir.
OK. Et vous êtes très active en ce moment. Est-ce que tu peux peut-être citer une ou deux actions que vous allez mettre en place justement pour moi j'aime bien le terrain, j'avoue je suis un homme de terrain, mais que vous avez pu ou que vous voulez mettre en place là dans les prochains mois
Alors nous notre action elle est éducative, c'est-à-dire que on se sert des contenus audiovisuels qu'on crée avec Little Miss Soccer pour les mettre au service pour que ça devienne des outils pédagogiques, des supports à la déconstruction des stéréotypes de genre mais aussi des discriminations systémiques quoi. Donc du coup on est sur des projections de un travail en amont avec les adultes référents, c'est souvent dans le milieu scolaire mais aussi le milieu associatif, un travail en amont pour créer une grille de lecture qui permette de mettre le doigt et d'identifier les stéréotypes par rapport au vécu du jeune public, par rapport au vécu des enfants, mais aussi le nôtre, enfin et des parents et des proches quoi. Et puis venir donner un argumentaire, une réponse à ces stéréotypes de genre, et puis finalement les arriver à une déconstruction totale et semer des graines un petit peu chez les jeunes pour se dire attention, vigilance, là on est sur quelque chose qui en fait ne permettra pas de toucher l'égalité homme-femme, ne permet pas l'équité de manière générale. Voilà, comment on fait pour se sortir de ça? Derrière, après, avec cette grille de lecture, les jeunes regardent le documentaire, soit un épisode, soit le format documentaire, le format long. Et à la lueur de cette projection, derrière, il y a un échange qui vient nourrir toutes les différences remarquées entre les pays, et savoir comment, en fait, d'un pays à l'autre, on donne des réponses à cette place de la femme femme footballeuse qui est de toute façon sans cesse questionnée. Mmh. Voilà. Et comment on arrive, in fine, à jouer en mixité? Parce que dans un troisième temps, on propose une pratique en mixité. Parce que c'est important déjà parce que le monde est fait ainsi, et donc c'est un peu important que sur le terrain on retrouve cette constitution là, et surtout c'est important que les jeunes garçons, nous on joue avec eux, et un exemple de jeunes filles qui savent jouer. Et en fait on voit très bien que ça, à partir du moment où on joue en mixité et qu'on joue avec eux et qu'on est là à leur donner des conseils, que en fait ça aplanit, ça met une dose de bienveillance sur des comportements qui pourraient avoir de manière comme ça à la volée à l'égard des filles qui vont dénigrer ou en tout cas ils vont être réfractaires parce qu'elles jouent pas aussi vite qu'eux, aussi bien qu'eux, aussi voilà. Mais en fait, en nous côtoyant, ils comprennent que à partir du moment où une fille à un temps de pratique, à un temps d'entraînement, et ne serait-ce que s'autorise à venir taper le ballon, elle va progresser et elle va atteindre peut-être notre niveau. Mmh. Et du coup, ça met tout le monde d'accord, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucun jugement à l'égard de jeunes filles ou même de jeunes garçons qui seraient moins bons, parce qu'on le rapporte au temps de pratique et au temps qu'il y a eu en amont pour en arriver à avoir ce niveau. C'est pas de l'ordre de voilà, on n'est plus sur du genre, on n'est plus sur du physique, on est juste sur le temps passé avec le ballon, quoi.
Ouais. De toute façon, ouais, les bienfaits de la mixité accompagnée ne sont plus à prouver, quoi. Il y a eu tellement d'expériences sociales qui montrent les bienfaits justement de mélanger les filles et les garçons, mais pas que, tu vois, à tous les niveaux, que ce soit professionnellement, ça crée de l'empathie.
Tout à fait.
Et ça peut être que bénéfique. Donc écoute, je suis très content d'avoir pu mettre en lumière ou donner un porte-voix plutôt à ces super actions, et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour la fin. Je vois que la durée dure, on est super bavard, on a envie de continuer et tout. J'ai deux petites questions que je pose à la fin à tous les invités du podcast. La première, c'est de savoir s'il y a un livre, un film que tu pourrais recommander à la terre entière pour qu'on soit tous plus heureux, plus épanouis, ou pour qu'on vive mieux. Qu'est-ce que tu donnerais?
J'ai envie de te dire Cher Connard, parce que c'est le livre de la rentrée, c'est le livre de Virginie Despentes. Et tu as introduit l'épisode en parlant du besoin de bienveillance. Je crois que c'est un livre qui dit beaucoup sur cette bienveillance qu'on doit avoir à l'égard de chacun, et que il peut y avoir des situations, bien sûr, qui nous opposent, bien sûr, qui nous heurtent dans le plus profond de notre être, et parce qu'il y a évidemment des zones d'incompréhension. On est des êtres tous différents, qui subissons le système patriarcal, qu'on soit homme ou femme, on est des pions d'un système finalement qui vient asseoir sa domination sur chacun. Et en l'occurrence, ce livre, il injecte une dose d'intelligence humaine et à l'égard du lien qu'on doit nourrir entre chacun et chacune. Et puis c'est une réelle leçon de patience et de bienveillance. Donc j'ai envie c'est ma dernière lecture, donc j'ai envie de rester sur ça, et puis à plein d'égards, parce que Virginie Despentes, il faut tout lire de Virginie Despentes.
Ouais, c'est,
il faut passer par King Kong Theory notamment, mais pas que, mais parce que Peut-être tu t'attendais à ce que je parle d'un livre ou d'un film lié au sport ou au football, mais alors là, pour le coup, j'estime que la prise de distance qu'impose cette lecture, et elle vient après nourrir tous les endroits de ma vie.
Ok, ça marche. Bah écoute, j'ai lu King Kong Theory, tu vois. Déjà, c'était pas facile par moment, tu vois, en tant que et c'est pas toujours facile en fait, si tu veux, d'un côté se sentir homme parce qu'on a on suit des stéréotypes, et en même temps de pas se sentir homme du tout parce que tu n'es pas du tout celui qui les crée, qui les incarne et qui les pousse, tu vois.
Parce que t'es le produit d'un système.
Ouais, exactement, et faut le déconstruire, faut faire cet effort là. Mais t'as raison. Écoute, je savais qu'il était sorti. Et du coup bah c'est très bien que tu me le recommandes. T'es la première personne qui me le recommande, donc j'aime beaucoup ce type de lecture aussi parce que ça me fait beaucoup réfléchir sur ma condition, donc je te remercie. Et la toute dernière question, c'est de savoir quelle est la prochaine extraterrienne et le prochain extraterrien que tu me recommandes d'aller interviewer, justement pour parler de renouveau dans le sport, d'engagement, d'égalité homme-femme. Faut qu'il y ait forcément une grosse touche de sport, hein, sinon il y a plus le fil conducteur du podcast.
Mais bien sûr.
Quelles pourraient être tes recommandations
Ah là là, c'est complexe. Attends, ça c'est...
Si t'en as plein, tu peux aussi me les dire en antenne.
Oui, bien sûr. Non, mais enfin, je sais pas si ça t'intéresse de voyager, mais t'avais l'air d'être quand même d'avoir un appétit de l'ailleurs. Mais je te dirais Monica Santino, qui est une pionnière du football argentin.
D'accord.
Qui en l'occurrence a créé une association qui s'appelle La Nuestra dans un quartier dans la Villa 31 à Buenos Aires, qui est une favela, quoi, un quartier très pauvre de Buenos Aires, où en l'occurrence elle est venue à coup de gros coups de gueule et à coup de renfort pour sortir du terrain, faire la place aux femmes sur le terrain. Et en gros, elle s'est faite caillasser, elle s'est faite expulser au corps à corps, et elle a rien lâché. Aujourd'hui, elle est dans cette association, il y a plus de 150 ou 200 jeunes footballeuses de tous les âges, et son objectif ultime, c'est d'intégrer La Nuestra dans le championnat féminin argentin. Donc de devenir presque un vrai centre de formation jusqu'à l'atteinte du meilleur niveau. Et au-delà de ça, enfin, elle va te raconter des histoires fantastiques, quoi. C'est une femme, une fan des Rolling Stones, c'est une rockeuse, c'est une militante, c'est une femme qui, c'est une lesbienne, c'est une femme qui a, c'est une maman qui a adopté deux jeunes filles haïtiennes. Qui est fabuleuse, enfin qui fait famille à tous les endroits où elle passe, voilà, si j'ai envie de dire ça.
Génial.
Et sa plus belle famille, sa famille globale, elle l'a réunie sur le terrain de foot parce que elle aime le foot
plus que tout.
Ouais, plus que tout.
OK. Et peut-être un homme aussi
Un homme oh là, complexe, hein. Alors là, c'est encore plus complexe.
Ouais, c'est...
Non, c'est bien là, déjà.
Ok. t'as raison de me prendre à mon propre jeu.
Non,
tu vois.
Parce que je sais que tu sauras les trouver, ceux-là.
Exactement, ouais. Écoute, merci infiniment, Mélina, parce que j'ai passé un excellent moment, tu vois.
De même.
À essayer de déconstruire, de comprendre, avec une touche très amicale et... Tu vois, on galvaude souvent le mot bienveillance, mais je pense qu'il y en avait beaucoup dans tes mots, et tout en étant précise et en appelant à pas un chien.
Je fais des digressions.
Donc c'était vraiment génial. Merci infiniment.
Merci à toi. C'était top, et vive extraterrien, extraterrienne. Ouais. Tu sais, c'est inépuisable. Hein.
Bah,
franchement,
écoute.
Quand il y a le sport à la peau, tu vas partout.
Exactement. Ce n'est que le début. Salut.
Salut, à bientôt.
Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.